Hello, hello, ici Melik de l'African Business Club. Bienvenue sur African Business Talk, le podcast de l'African Business Club. Pour cette nouvelle saison, le podcast évolue et nous allons vous proposer différentes séries d'épisodes avec des acteurs de l'écosystème entrepreneurial et d'innovation en lien avec le continent africain. La première série d'épisodes, en partenariat avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique et le podcast Choose Your Mentor, met en lumière des parcours d'entrepreneurs divers, issus de la diaspora ou non, dans le cadre du programme Passe Africa. Notre objectif est de partager des retours d'expérience d'entrepreneurs aguerris afin de motiver et d'accompagner les entrepreneurs postulants pour être lauréats du Passe Africa 2e édition. Le programme Passe Africa a pour objectif d'accélérer le développement des entreprises à fort potentiel de croissance, ayant l'Afrique comme priorité dans leur ambition de développement. Dans ce premier épisode de la série, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Xavier Gomez, cofondateur et directeur général d'Invio. Xavier est un expert en banking, fintech et crypto-monnaie et data. Après une carrière chez Crédit Suisse où il gravit plusieurs échelons importants, il décide de tout plaquer et d'embrasser une seconde vie d'entrepreneur avec tous les risques adjacents. À travers cet échange, il nous raconte son déclic, ses premiers pas dans cette nouvelle carrière et ses premières grandes émotions, le pitch de son projet auprès d'investisseurs, la signature de son premier contrat client, etc. Vous y découvrirez également une personnalité engagée, curieuse et qui incarne une certaine réussite de la diversité. Sans vous en dire plus, je vous laisse découvrir cet échange et vous souhaite une excellente écoute. À très vite.
Bonjour Xavier.
Bonjour Ernest.
Bonjour Malik.
Bonjour Ernest. Bonjour Xavier.
Nous sommes très heureux aujourd'hui de te recevoir dans le cadre de cet échange qui s'inscrit à la fois en partenariat, l'African Business Talk et Choose Your Mentor et le Conseil présidentiel pour l'Afrique dans le cadre du lancement du Pass Africa. Donc aujourd'hui, on te reçoit pour parler un petit peu de tes activités. Nous allons découvrir ton parcours et tes activités, donc à la fois ta carrière et dans l'entrepreneuriat. Donc avant tout, je vais te demander de te présenter auprès de nos auditeurs, donc de nous dire qui est Xavier Gomez, que l'on pourrait par exemple rencontrer au détour d'une rue.
Donc, Xavier Gomez, j'ai un parcours classique école républicaine française, école publique, classe prépa aux grandes écoles, ensuite école de commerce. Et très vite, je me suis intéressé au sujet financier. Donc, j'ai pu, comparé à d'autres, avoir la chance de savoir ce que je voulais faire rapidement. Et donc bien m'orienter, parce que comme vous le savez, le système français est assez exigeant de ce point de vue-là. Il demande à très jeune de savoir ce qu'on veut. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut, donc c'est un peu compliqué. Et donc je me suis dirigé vers les marchés financiers et la banque. C'est là où j'ai fait mes premières expériences, mes premiers stages, notamment chez un courtier et ensuite chez le néerlandais ING. Et, après, j'ai été tout simplement engagé par Crédit Suisse à ma sortie d'école. Et j'ai eu la chance au sein du Crédit Suisse d'avoir une carrière assez riche dans des moments assez difficiles qui ont été formateurs, puisque j'ai commencé en 2001. Quand vous regardez l'histoire des marchés financiers et de l'histoire économique, il y a eu pas mal de choses entre 2001 et aujourd'hui, entre le 11 septembre, entre la crise de 2008, les crises de l'euro, les crises des dettes européennes. Et ce qui m'a permis de grimper les échelons assez vite d'ailleurs, puisque j'étais un des premiers trentenaire du groupe au niveau européen à devenir director avant de passer MD. Et d'être entre Londres, Paris et Zurich avec différentes casquettes où j'étais responsable du trading, responsable de la trésorerie aussi du groupe Crédit Suisse en France. J'ai été portfolio manager, donc gérant de fonds, plus côté gestion sous mandat, private banking, asset management. Et donc voilà. Après, j'ai décidé avec certains camarades de donner une nouvelle direction à ma carrière, puisque il est vrai que la finance après 2008 était compliquée avec toutes les règles qui existaient. C'était moins, moins fun, ouais, utilisons ce mot, moins fun, moins sympa. Temps à mettre de la réglementation en place entre les Bâle 3, les MiFID 2, les Solvency 2 pour les gros clients assureurs. Et on faisait plus de la réglementation que du business financier bancaire. Et donc, c'est là où j'ai décidé de me tourner plus vers la tech, puisque en fait, toute cette réglementation-là, moi, je l'ai intégré via de la technologie, et c'est en ça que je me suis ouvert à la technologie. Je n'étais pas forcément préparé à ça. J'ai appris beaucoup avec les directions informatiques européennes de ce point de vue-là, puisque j'étais un peu feignant. Je ne me voyais pas engager du monde des dizaines ou des quinzaines de personnes et de la paperasse. Et je me suis dit, il y a la technologie qui est là, comment on peut améliorer les choses via ce segment-là. Et c'est là où j'ai découvert tout le monde tech, et que j'ai sauté dans l'entrepreneuriat avec un ancien du Crédit Suisse et associé aujourd'hui pour créer ma société aujourd'hui Invio, INVYO, okay. Qui a pour définition démocratiser l'utilisation de la data auprès des experts des entreprises et rendre la donnée accessible via des outils d'intelligence artificielle et de machine learning.
D'accord. Et concrètement, M. Gomez, c'est quoi les applicatifs de votre solution? Et du coup, c'est qui vos clients? Est-ce que c'est les banques? Est-ce que c'est...
Mais nos clients, c'est très simple. C'était plus facile pour moi d'accélérer, de scaler en m'adressant à mon écosystème avec le carnet d'adresses que j'avais. Donc, à s'intéresser à la finance, à contacter... des clients tels que des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de private equity, voire même des cabinets de conseil avec lesquels je travaillais et qui m'aidaient à restructurer certains départements, donc qui étaient pour des sujets très, très financiers. Après, concrètement, la solution, c'est des solutions sur mesure qu'on fait, qui sont sur trois piliers, l'exploration de la donnée, la visualisation de cette donnée, et le contrôle de cette donnée. La mission d'Invio, c'est de rendre la donnée accessible, car on part du principe que tout le monde n'a pas les compétences d'un data scientist pour aller collecter cette donnée, la filtrer et la classifier pour la faire parler. Et souvent, les trois piliers que je viens de vous définir sont des entreprises à elles seules. Prends par exemple une grosse société Tableau qui est spécialiste dans la data visualisation, elle vous donne que de la visualisation. Et nous, on trouvait idiot de ne pas réunir ces trois éléments dans un seul outil afin que l'expert, l'être humain, le professionnel soit augmenté. Et notamment dans la finance, ça devenait criant. Tout le monde utilise Excel. Mais tout le monde n'a pas forcément le même besoin. On va avoir deux établissements financiers qui vont nous faire peut-être la même demande, mais n'aura pas au final le même outil, parce que dans le cadrage technique qu'ils vont nous demander, ils n'auront pas les mêmes valeurs, le même traitement de la donnée ou les mêmes sources qu'ils voudront intégrer à cette solution qui en fait une solution unique. Un certain module qui font que nos techs montent la solution sous forme de Lego, tout simplement, pour des fonds de private equity, pour des sujets de sourcing. Donc, le sujet de sourcing, c'est trouver la bonne cible pour, dans laquelle investir un certain nombre de millions, ou faire des reportings automatiques plutôt que le junior du fond le fasse avec toutes les conséquences des erreurs humaines qu'il peut avoir, que ça soit récupérer de la donnée aussi commerciale pour que les commerciaux dans les établissements financiers soient augmentés afin de les lier avec leur CRM et qu'ils sachent à tout moment, tous les matins, quand ils arrivent au bureau, qu'ils aient un croisement d'informations entre leur portefeuille client, la donnée InView qui vient leur dire, au fait, le client X ou Y, il y a une nouvelle particulière, vous devriez l'appeler pour lui offrir tel ou tel service.
Okay.
Ce qui lui permet d'être guidé d'organiser sa journée et d'être plus efficient et je dirais, plus pertinent. Et puis, j'en terminerai en disant, aujourd'hui, la plupart des solutions qui existent sur le marché sont des solutions qui fournissent de la donnée dite basique. Et nous, on a vocation, avec des briques d'intelligence artificielle et notamment de NLP, Natural Language Processing, de fournir de la donnée dite intelligente, la smart data. On l'a fait parler avec des outils tels que l'analyse de sentiments pour savoir si le texte ou l'ensemble des informations qu'on collecte, soit sur les réseaux sociaux, soit sous forme d'articles, soit dans des documents PDF, c'est positif ou négatif pour l'entreprise. Est-ce que leurs dirigeants ont une bonne ou une mauvaise réputation? Pas mal de signaux faibles qui permettent d'être, comme je vous disais tout à l'heure, augmenté, tout simplement.
Ok. Ernest, voilà. Si tu me permets, avant d'avancer sur un autre sujet, vous avez fait un choix d'après une bonne dizaine d'années incorporées, de voir plus peut-être, non? Dans le secteur bancaire, vous avez fait quoi, une bonne dizaine d'années, voire 13 ans, je crois?
Oui, plus à peu près 16 ans.
16 ans. Après 16 ans, vous faites le choix d'être un late entrepreneur. Comment ça se présente ce choix-là? Est-ce que vous le perceviez comme un risque? Et comment est-ce que vous avez vécu ce changement-là? Et comment vous vivez votre aventure d'entrepreneur aujourd'hui? Est-ce que ça vous donne plus de liberté, par exemple, dans le quotidien? Qu'est-ce que ça vient nourrir de plus qu'une carrière en business, en corporate ne vous a pas apporté?
Je vais commencer déjà parce que ça vous enlève.
D'accord.
ça vous enlève pas mal de rémunération par rapport au salaire confortable qu'on avait dans le monde financier, il faut le dire.
À court terme peut-être et à long terme.
C'est exactement ça, c'est un investissement, vous avez tout à fait raison Malik. C'est comme ça que je le vois, c'est aujourd'hui l'alignement sur l'investissement long terme, et ça va avec tous les sujets impact, ESG, ainsi de suite, oui. et tout se réunit, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. À court terme, effectivement, si j'ai un message à donner, il faut se préparer financièrement, parce que c'est pas simple. Vous avez votre rémunération qui baisse, tous les entrepreneurs vous le diront, que ce soit de la tech, PME, quoi que ce soit, donc il faut avoir un petit pécule.
Oui.
Ça vous permet aussi de ça vous enlève aussi la force d'une structure, une force de frappe assez forte, puisque quand je demandais quelque chose ou je prenais mon téléphone ou un email, j'avais des équipes à disposition, voire aux ordres, pour exécuter. C'est vrai que quand vous sortez d'une telle organisation qui était une vraie machine de guerre, vous êtes seul et vous devez faire les choses vous-même. Et donc, vous apprenez à prioriser, à abandonner un certain nombre de choses et à faire les choses par vous-même en intégrant le temps, j'ai envie de dire le temps long, très clairement. Et ce que ça vous donne, ça vous donne une chose qui est, comme disent mes amis anglo-saxons, priceless, une liberté d'agir. Parce que vous ne pouvez pas passer par le département compliance, conformité, pour dire, pour faire quoi que ce soit. Vous avez aussi la liberté d'organiser aussi vos journées comme vous le souhaitez, donc d'avoir des journées un peu plus équilibrées qui vous empêchent d'être en mode burn-out pour certains. De vous former aussi, de mélanger le travail et formation en prenant, quand vous avez les gens vous apprécient, avoir du temps avec des gens intéressants, voire même puissants, qui vous coachent. J'ai eu aussi cette chance-là, en toute confidentialité, en discrétion. Et donc voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et comme vous dites. Après, j'ai envie de vous dire, les ressources, le côté pécunier, c'est pas tellement le sujet en ce moment. C'est naturel, ça vient et ça viendra encore plus. Et d'ailleurs, il y a Elon Musk qui l'explique très bien dans une keynote un jour. C'est vrai que lui, il est à très très haut niveau, mais il dit quand vous êtes dans les bons rails, les questions de ressources, c'est plus un sujet. C'est quelle est la vision, qu'est-ce que vous voulez, comment vous le faites et avec qui vous le faites. Et l'autre élément aussi, puisqu'on est dans une société qui va de plus en plus dans les services, la liberté que ça vous donne, c'est pouvoir constituer vos équipes comme vous le souhaitez.
Ouais.
Des équipes de talent. Et aujourd'hui, quand vous montez une entreprise, quelle qu'elle soit, et j'en suis persuadé dans l'avenir, ce sera les talents qui vont vous rejoindre, soit dans votre département, soit dans votre entreprise, qui feront la différence. Parce qu'on ne sait pas tout. Et des fois, il faut être assez humble pour dire « Ok, je dois me prendre un expert ou un spécialiste du sujet qui, lui, justement, va m'apprendre et me faire grandir, mais ce sera lui qui sera en responsabilité.
Mmh. » Ok, très clair.
Justement, sur ce parcours entrepreneurial, est-ce que tu as deux moments où tu t'es dit, qui ont été vraiment des moments clés, où tu t'es dit, là, ça y est, le projet, il prend vie, il prend forme, et que je suis justement sur la bonne route.
Ou des moments de doute.
Ou des moments de doute.
Je vous rassure, les moments de doute, c'est tous les matins qu'on se lève. Les deux, trois sujets majeurs, parce que je suis quelqu'un d'organisé, j'ai eu la chance de faire aussi une partie de ma carrière à l'international et en Suisse, où c'est un pays qui m'a appris beaucoup en termes d'organisation. J'étais en Suisse alémanique, donc ils sont assez carrés. Ils nous voient les Français un peu comme des Latins, des fois pas très sérieux, mais ça va leur faire sourire d'ailleurs s'ils m'écoutent. Donc j'ai toujours deux ou trois objectifs dans la journée à faire et à réaliser. Et c'est vrai que, comme je vous le dis, en souriant, c'est les moments de doute, c'est tous les matins en se posant la question, est-ce que j'ai fait le bon choix, ce que j'appelle le doute ultime, mais qui ne me prend pas la tête. C'est-à-dire, je teste ma décision, mes décisions auprès de mes associés, auprès de mentors, de personnes un peu extérieures qui n'ont pas cette pression, cette responsabilité pour avoir un avis extérieur et pour trancher rapidement. Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le temps long des grands groupes avec les plans triennaux, quinquennaux. Le trimestre, c'est pratiquement une année civile. Et donc, il faut que les choses aillent vite et exécutent vite. Et ça, c'est difficile quand vous n'avez pas une bonne équipe. Et j'en reviens au talent qui vous accompagne pour exécuter le plan que vous avez déterminé. Et pour répondre à ta question, Ernest, il y a eu un moment majeur qui a été le jour où, parce qu'on a commencé à deux, où on reçoit avec mon associé et moi l'email qui confirme que le client... Notre premier client dit « Go, on y va ». Et moi, j'étais encore en poste et je me dis « Bon, je peux le faire en le part-time, en week-end, machin, mais si on a un deuxième, ça risque d'être compliqué. » Et là, la semaine qui suit, il y en a un deuxième qui dit « Go ». Et donc là, vous dites « Ok, ce qu'on voulait arrive ». Ça arrive peut-être un peu trop tôt.
On est en face du mur.
Voilà, donc là, vous réfléchissez, vous dites comment vous allez présenter à vos responsables votre démission, parce qu'il n'y a pas trop le choix, puisque là, ce qu'on a semé, et on est en train de le récolter, on était deux, ça veut dire que, on avait créé la société, ainsi de suite, maintenant, il fallait exécuter, et ça demandait un plein temps. Ce n'était pas possible de le faire en part-time et bien. Et donc là, vous avez
de gros établissements financiers parisiens qui vous disent go, on y va. Et donc voilà, vous êtes obligé de passer véritablement à 100% et de dire ce que je vous disais, adieu à votre place confortable et se lancer dans le bain de l'entrepreneuriat, de la tech avec certaines incertitudes et des clients qui ont signé et qui maintenant attendent que vous délivrez. Ouais. Donc ça a été un des éléments majeurs. Et l'autre élément, puisque vous m'avez demandé un deuxième, c'est quand on a réalisé et on a convaincu les premiers investisseurs avec le deal, le pacte d'actionnaires. Et moi, je l'ai réalisé après avoir quitté le cabinet d'avocats où on avait tous signé, de dire, ah oui, là, il y a des gens extérieurs qui vous donnent un certain nombre d'argent pour réaliser ce que vous avez dit.
Vous avez pris un investissement en equity ou en...
Oui, c'est de l'equity. C'est classiquement actuellement.
Bien sûr.
Auprès de gros business angel, avant de passer au niveau VC, en early à l'époque. Mais voilà, vous dites, ouais, là, il y a quand même une pression et vous avez la pression client qui vont avec vous, puis là, il y a la pression investissement. Donc, un peu comme dans mes responsabilités passées, où je trouve que j'ai, avec le recul, été bien préparé à ça. À un moment, on réfléchit, on s'arrête 2 minutes, on dit « waouh, quand même ». Puis après, boum, vous repassez à autre chose. Mais avec le recul et la question d'Ernest, ça m'a fait penser à ces deux moments-là qui étaient clés.
Okay. D'accord, on retiendra les phases le fameux premier client et la partie investissement qui sont les deux moments, je pense, dans une aventure entrepreneuriale vraiment très clés. Merci, Xavier, pour ce feedback. Pour aller un petit peu sur un autre sujet, mais tu es ici un petit peu de la diaspora africaine en Europe. Quel lien entretiens-tu avec le continent?
Alors, moi, je suis d'origine béninoise. Mes grands-parents viennent du Togo et du Bénin. Mon grand-père du Bénin, ma grand-mère du Togo. Et depuis l'âge de 3 ans, on me mettait dans un avion tous les étés et on m'envoyait, comme on dit, au pays. Jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans où j'ai dit stop, j'ai envie de voir autre chose, donc de voir le monde. Une partie de la famille vit encore au Togo et au Bénin, on fait souvent l'aller-retour, notamment les grands-parents et ma mère. Donc c'est... ce sont des attaches naturelles, parce que j'ai de la famille un peu partout, aux États-Unis, en Europe, en France, en Belgique, Angleterre, même en Chine, pour certains. Et le point de ralliement, très clairement, oui, est l'Afrique / la France. Et oui, ce sont les racines de la famille, ce sont mes racines. Et... c'est un lien de la filiation assez fort, où je dis souvent c'est le dernier continent. Alors quand je dis c'est le dernier continent, il n'y a rien de négatif, c'est le dernier continent qui pour moi va exploser et qu'on doit faire exploser d'un point de vue social, économique, environnemental, qui est assez préservé et vierge de tous les problèmes qu'on peut avoir dans le monde occidental. Et il y a quelque chose à faire de grand et de bien. C'est pour ça que je pense que l'entrepreneuriat est plus adapté à la mentalité de débrouillardise africaine, notamment d'Afrique de l'Ouest, que je connais un peu, on va dire, puisqu'il y a, avant le Covid, j'ai découvert l'Afrique de l'Est, où j'avais jamais mis les pieds lorsque j'ai été invité par l'Éthiopie à faire une présentation, un panel sur les solutions fintech Afrique-Europe. Et donc voilà, il y a pas mal de choses à faire et je vois plein de choses. Par exemple, au Bénin, le président Talon et son gouvernement a lancé le programme de câblage en fibre optique du pays. Il y a des grands projets d'infrastructure avec un deuxième port en eau profonde, sur des partenariats publics-privés. Il a été signé avec la Société Générale au niveau financement la construction d'un hôpital dernier cri qui sera un des plus modernes d'Afrique de l'Ouest dans quelques années. Donc il y a pas mal de choses et donc voilà. Et moi j'essaye de m'inclure dans différents projets dont je pense on parlera.
Et justement, enfin, sur ces projets, je sais que les fintechs, ça commence à bien bouger en Afrique, notamment avec tout ce qui est Orange Money, avec d'autres sujets de ce type-là. Est-ce que Envio a, par exemple, un avenir en Afrique? Comment est-ce que vous voyez un peu le développement des fintechs sur le continent africain, si vous avez un regard là-dessus?
Alors, Envio, ça reste de la data. C'est drôle parce que, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet fintech, avec mon associé, on avait créé, mon associé Alexandre Velu, il y a eu la création d'un blog qui parlait des sujets fintech, parce qu'on avait été invité dans tous les événements fintech internationaux qui étaient confidentiels à l'époque, qui s'appelait Techfolience et qui aujourd'hui s'appelle InView Insight. Okay. Et on avait différents piliers continentaux. On avait une partie Afrique, avec tous les sujets fintech en Afrique. On avait la fintech en Europe, la fintech en Amérique du Sud. Et c'est vrai que les articles qui avaient plus de vues et sur lesquels on avait construit notre communauté à plus de 40 000 abonnés, c'était sur la découverte des solutions fintech dans les pays dits émergents, notamment Afrique et Latam. Et il y a plein de sujets, notamment dans le paiement, où via les opérateurs, il y a des choses formidables qui vont être faites et qui sont faites actuellement pour pouvoir, ne serait-ce que le transfert d'argent en termes de diaspora, qui coûte des frais monstres aujourd'hui par rapport aux populations qui n'ont pas beaucoup de moyens, par rapport à d'autres ici qui sont en Europe, qui se saignent pour envoyer de l'argent tous les mois pour le reste de la famille. Et entre-temps, vous avez au milieu du process, vous avez
des opérateurs.
Des opérateurs, un tiers de confiance qui vous prend des frais qui sont exorbitants. Et c'est en ça que les solutions fintech ont un rôle à la fois d'éducation et de simplicité, à la fois aussi de baisse des coûts de transaction qui sont importants, et à la fois de tiers de confiance et de sécurité. Il y a pas mal aussi de comportements qui sont plus que critiquables. Je le vois dans le paiement, où soit les banques centrales ou soit certaines banques commerciales avec des personnes qui ne font pas leur métier, qui bloquent les transferts, et ça n'arrive pas dans les bons comptes en temps et en heure parce que le job n'est pas fait. Donc ça, la technologie permet en quelques heures ou au maximum en quelques jours que tout soit fait de manière légale et sécurisée. Et c'est en ça qu'une solution fintech dans le sous-secteur des paiements peut être utile aujourd'hui au développement de l'Afrique. Ça, j'y crois clairement. Il y a pas mal de choses aussi qui viendront après, telles que l'épargne aussi, puisqu'il y a maintenant une classe moyenne dans certains pays qui se crée pour fournir des solutions de retraite, d'épargne et ce genre de choses.
Okay. Tu es aussi expert des crypto-monnaies, donc et on voit que la dynamique aussi en Afrique, elle est de plus en plus prégnante. Notamment là récemment, il y a le Nigeria qui a lancé son Inaira, donc sa devise en crypto-monnaie. Quel est ton regard un petit peu sur ces innovations-là aussi sur le côté des crypto-monnaies? Est-ce qu'il y a des opportunités ou quelles seraient ces opportunités-là pour les économies africaines?
Déjà, moi, j'ai découvert lors de mon passage aux États-Unis, au MIT, quand j'ai fait un exécutif programme en fintech, la blockchain et crypto. lors des cours. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au tout début, je ne comprenais rien. C'est une monnaie, ce n'est pas une monnaie. Et ce qui était intéressant dans les groupes de travail, il y avait des profils internationaux et des Indiens, des Hongkongais, et ainsi de suite. Et c'était super parce que chacun avait un bout de réponse à mes questions. Et c'est vrai que je suis revenu après en France et j'ai vu que la communauté était une communauté de geeks sur ces sujets-là, qui n'était pas très parlante en Afrique, disons-le, à l'époque. C'était mal vu par la finance traditionnelle, par des personnes qui sont établies, qui ont un certain âge, qui n'ont plus besoin de faire beaucoup d'efforts, et disons-le, qui n'ont plus faim, donc qui ne se remettent pas en question. Mais c'est vrai qu'il y a un pattern qui revient tout le temps, qui est l'âge établi. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je trouve des personnes autour de moi qui sont plus vieilles, plus seniors et qui sont d'ailleurs parfois plus vives que les geeks que j'ai employés. Mais passons. Et je voyais, à cette époque, 2015-2017, je ne voyais pas trop l'intérêt pour l'Afrique, surtout qu'on n'avait pas de... Il n'y avait pas de plan massif de digitalisation.
Oui. C'est arrivé à peine. Non
voilà, ce qui est assez compliqué, parce que si vous voulez arrêter les cryptos, il faut éteindre Internet. Et si vous n'avez pas Internet, le problème est réglé. Et c'est marrant parce que c'est la question qu'on m'a posée lors de cet événement FinTech en Éthiopie en 2019, dans lequel j'ai été invité. On me dit, oui, comment vous voyez la blockchain et la crypto pour l'Afrique? Et j'ai répondu, peut-être certaines personnes à l'époque n'ont pas aimé, j'ai dit déjà, câbler l'Éthiopie avant de parler de ce genre de sujet, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Développer les solutions fintech avec des airdrops, tout ça dans le paiement, ça arrivera. Mais pour l'instant, il faut faire les choses par étapes. Alors, si vous le faites vite, ça arrivera vite, mais mettez en place les infrastructures technologiques qui pourront réceptionner ce type de technologie. Et c'est marrant que tu parles du Nigeria, parce qu'il y a quelques mois, ça peut faire la une des journaux ici. Le gouvernement a voulu interdire
exactement.
Le modèle chinois, les cryptos, parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Parce que c'est de la géopolitique. Hein. Si vous avez compris le yuan, vous comprenez le Naira aussi. C'est que les gouvernements en place veulent avoir le plein contrôle économique de ce qu'ils font dans l'économie traditionnelle. Ils veulent continuer à le faire dans la e-monnaie. Et quand ils ont voulu l'interdire, les jeunes sont sortis dans la rue pour manifester assez violemment. Et là, le gouvernement a reculé. Il a trouvé, je dirais, un mode de passe-passe, parce qu'il faut dire qu'avec une croissance à trois chiffres chaque année, ne serait-ce que du Bitcoin, qui est la première crypto, pour quelqu'un d'Afrique de l'Ouest, quelle que soit sa monnaie, c'est quand même un élément de richesse, de vécu qui est quand même confortable. Je dis pas que c'est bien. Mais on ne peut pas enlever le pain de la bouche de personnes qui ont peu de moyens, surtout s'il y a une croissance aussi forte. Et donc, moi, je le vois comme un élément de souveraineté, très clairement pour l'Afrique de l'Ouest. J'attends avec impatience que les différents gouvernements qui sont sous la houlette, notamment du franc CFA, puisqu'il y a pas mal de chefs de gouvernement africains qui ont parlé haut et fort pour changer les choses par rapport à cette situation de CFA, du CFA et de retrouver une souveraineté. Ce serait un élément de retrouver la souveraineté via soit cette monnaie digitale de banque centrale, ou soit en étant plus libéral avec l'expérience qui se passe avec le Salvador. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire comme le Salvador dans certains pays d'Afrique de l'Ouest? Personnellement, compte tenu de ma connaissance économique, j'en suis pas sûr. Tout le monde n'a pas le même niveau. Les écarts sont assez grands comme un pays tel que le Nigeria, d'un point de vue économique, que la Côte d'Ivoire, le Ghana et d'autres. Donc je pense que ça peut être compliqué. Ou sinon, il faut des politiques économiques fortes de convergence avec des impacts et des réformes relativement fortes pour atteindre cet objectif. Et ça, je vous parle de projet de monnaie centrale. Ou de l'autre côté, vous avez cet asset digitaux, Bitcoin, Ethereum, ce que vous voulez, qui a libre valeur comme au Salvador. Et donc, on va voir en réel avec le cas du Salvador, est-ce que, ils seront capables de tenir aussi le choc? Parce que le problème, c'est la variation des cours à la hausse ou à la baisse. Il y a une volatilité très élevée et ce n'est pas évident pour faire une politique économique de développement comme les pays ont besoin. Il y a besoin de stabilité aussi. Que ça aille dans un sens ou dans un autre, mais il y a besoin d'une stabilité plutôt que cette forte volatilité pour que l'ensemble des opérateurs économiques et des acteurs économiques puissent avoir de la visibilité en termes de ressources et en termes de budget. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est une expérience, hein, comme on dit, proof of work, proof of stake, avec les cryptos. On vit, je trouve, une époque formidable. Mais aussi qui peut être dangereuse pour certains pays. Et personnellement, je me dis qu'il n'y a pas une maturité, mais je peux me tromper, hein. C'est un avis personnel, compte tenu des connaissances que j'ai des différents pays, des principaux pays d'un point de vue macroéconomique.
Bien sûr.
Bien sûr.
Xavier, avant de, on arrive, on commence à toucher à notre temps là. Mais avant d'arriver sur les questions de fin qui vont être faites par Ernest, tu es engagé aussi auprès du Club 21e siècle qui travaille pour la diversité dans les entreprises et pour l'égalité des chances. Est-ce qu'on peut être juste entrepreneur ou est-ce que il faut être entrepreneur et être engagé associativement ou en tout cas sur une cause pour pouvoir porter son engagement entrepreneurial?
Je trouve que personnellement, en tant qu'entrepreneur, les deux sont liés aujourd'hui. C'est une tendance que nous, les plus jeunes, on n'était pas forcément à l'aise avec certains sujets de diversité, de traitement, soyons francs, dans certaines grandes entreprises. C'est une des raisons pour laquelle moi, je me suis dirigé vers une entreprise étrangère et internationale. Parce que c'était peut-être un a priori, mais pour être très franc avec vous, je pense que je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite dans une banque française que dans une banque étrangère ou Crédit Suisse qui m'a fait confiance à un très haut niveau aujourd'hui. Donc après, il suffit de juste regarder les boards. Et je pense que même au jour d'aujourd'hui, quand on parle de diversité, les faits ne me donnent pas trop tort. Tort ou à tort ou à raison. Donc voilà, ça c'est juste factuel. Et après, pour moi, ça a toujours été dans mes valeurs et puis ça a été cultivé pareil dans cette entreprise de redonner un peu ce que vous donne la société civile. J'estime pas forcément avoir réussi, mais de pouvoir au moins guider un peu certaines personnes qui en ont le besoin de manière bénévole. Et c'est un juste retour de choses. Et je le faisais un peu dans le cadre en tant qu'employé quand j'étais employé responsable. Et le Club 21e siècle est venu me chercher et m'a demandé, compte tenu de mes activités, est-ce que on partageait les mêmes valeurs et ça m'intéressait? J'ai dit oui, pourquoi pas. Au tout début, j'y suis allé avec une certaine précaution parce que je me sentais pas forcément capable de manager l'ensemble et qui j'étais pour donner des conseils, des leçons ou ce genre de choses. Et ça s'est fait tout naturellement. Aujourd'hui, avec d'autres membres, je participe à pas mal de mentorats avec différentes initiatives, notamment une de mes anciennes écoles à HEC, avec Stand Up HEC, qui aide notamment les femmes à devenir entrepreneurs avec les bonnes clés. Donc le club 21e siècle fournit des mentors. Donc j'ai pu m'occuper avec d'autres de certains ateliers, des ateliers de financement, de plans stratégiques, ce genre de choses pour pouvoir développer son entreprise. Aussi dans le cadre de Diversity Days avec Anthony Babkin, aussi d'aider des entrepreneurs de banlieue, on dit de quartier prioritaire, je ne sais plus, le mot a changé maintenant, on a toujours des appellations un peu différentes. Il y a oui, Stand Up HEC qui est un partenaire du Club 21e siècle, Diversides avec Anthony Babkin. Et il y en a un autre, un troisième que j'oublie, pareil avec le petit groupe, on est des mentors pour ah oui, French Tech Diversides. French Tech Diversité, pardon, qui est le troisième, qui est une émanation d'une initiative du ministère de l'économie et notamment de la DGE, de la Direction Générale des Entreprises, où dans la tech, ça manque un peu de diversité et ils avaient créé le cocorico rouge French Tech et après ils ont lancé cette initiative un peu plus diversité, donc et sur lequel je suis mentor aussi pour différentes startups.
Ok. On termine nos interviews par une référence culturelle. Est-ce que tu as un livre ou une autre référence culturelle, donc un film, un podcast, du théâtre, qui a été life-changing pour toi et que tu souhaiterais partager avec nous et notre communauté?
Alors, c'est en termes d'exemple, ça a toujours été depuis très tôt quand j'en ai pris conscience lors de sa libération et de ce qu'il avait vécu. Ça a toujours été Mandela, ce qu'il avait fait, bien que on soit partagé par rapport à ce qu'il a pu réaliser en tant que homme libre et président, ne serait-ce que pour le symbole d'espoir, c'est quelqu'un qui m'inspire avec ses écrits et ses dires, parce qu'il donne de l'espérance pour moi à tout un continent. Oui. Quand même, quand vous voyez sa vie, on peut ne pas être d'accord avec ses orientations politiques, notamment de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait aussi compliqué d'avoir son orientation politique, mais son combat, effectivement, contre l'apartheid et de passer d'un statut de prisonnier à président de la République, bon, ça force quand même un certain respect.
C'est pas tous les matins.
Voilà.
Et donc, 27 ans, en plus.
Exactement. Et ça donne, et ça peut donner pas mal d'espoir et d'envie de se battre à beaucoup d'entre nous au quotidien.
D'accord. Merci, Xavier. En mot de fin, que dirais-tu au Xavier Gomez d'il y a 20 ans, jeune, tout fraîchement diplômé?
Je leur dirais, ne vous posez pas de questions. Si vous sentez que vous devez faire quelque chose ou de vous lancer, faites-le. Plus vous êtes jeune, plus vous serez enclin à peut-être faire des erreurs, mais ces erreurs, ou pas ces erreurs, c'est vous apprenez, ces apprentissages de la vie font que ce sera pas très grave. Quand on est plus vieux, ça prend plus de conséquences. Mais je vois en tout cas, pour les plus jeunes d'entre vous, une véritable envie, mais ne pas se laisser ralentir ou arrêter par le doute. Faites ce que vous avez envie de faire et tentez-le. Et vivez-le à plein. Parce que franchement, c'est une période, je trouve, formidable, en dehors des sujets politiques, raciales, diversité, tout ça.
Mais d'un point de vue, moi j'aimerais avoir 20 ans de moins aujourd'hui. Ne serait-ce qu'avec tout ce qui arrive et de ce monde en transition, tous les carcans sont en train de tomber un par un et qui vont continuer à tomber. Et là, vous avez des opportunités que je trouve colossales. Et c'est en ça, c'est allez-y, tout simplement.
Merci beaucoup, Xavier.
Merci.
Merci à vous de m'avoir invité.